Je vais parler des pathologies émergentes et de la place de la pneumologie et du pneumologue dans ces pathologies émergentes. Alors, c'est quoi une pathologie émergente? Une pathologie émergente, c'est une nouvelle pathologie avec un nouveau agent pathogène. C'est aussi une pathologie connue, mais qui va atteindre une population vierge de ce germe, ou bien une zone vierge. Ou bien ça peut être aussi la résurgence d'une pathologie ancienne connue après une longue période de silence. Alors, à tel point qu'il y a eu ces pathologies, ces réémergences de pathologies, qu'il y a eu un journal qui parle de ça. Alors, regardez sur cette plaque, nous avons un peu les pathologies. C'est un instantané pour voir un peu les pathologies qui émergent. Et vous voyez que là, les pneumologues sont impliqués dans à peu près pas mal de pathologies. L'antivirus, bien sûr, la tuberculose multirésistante, les grippes, et puis le virus, le sida. Alors, dans les 40 dernières années, plusieurs pathologies sont apparues, nous allons voir ensemble, et la quasi-majorité de ces pathologies, Ebola mise à part, ont impliqué ou les poumons ou les pneumologues. Il a été impliqué parce que très souvent, pour le sida, il y a eu cette déficience immunitaire et le poumon a été un organe cible des infections nosocomiales et des infections chez cet immunodéprimé. Et puis, souvent, certaines pathologies sont à contamination aérienne. Et là, très souvent, le pneumologue a été en premier plan, le poumon a été en premier plan et très souvent, le personnel soignant a aussi été atteint. Alors, il y a eu le sida, il y a eu la grippe aviaire, la grippe porcine, le SARS, le MERS, l'antivirus, et puis demain, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura encore. L'atteinte est souvent inaugurale et révélatrice, pulmonaire, avec une atteinte interstitielle, avec une hypoxie diffuse, sévère. L'évolution est très souvent fatale. Alors, nous allons parler un peu de l'histoire. En 1981, il y a eu la naissance d'une pathologie. Vous vous souvenez un peu que ça a commencé par le journal hebdomadaire du Centre of Control Disease qui a sorti la pneumocystis à Los Angeles chez deux homosexuels. Et puis, quelques mois après, il y a eu deux publications dans le New England Journal of Medicine qui sont sorties en même temps, qui parlaient de mini-épidémie de pneumocystis carinii, c'est des homosexuels mâles. Deux ans après, le virus du sida a été découvert par les Français et par l'Institut Pasteur. Il a été réclamé par les Américains qui disaient Gallo, qui disaient l'avoir découvert. Et en fin de compte, la paternité est revenue à la France avec un prix Nobel de médecine 25 ans plus tard. Alors ce virus, c'était un virus très probablement c'est le singe, qui a muté, qui est passé chez l'homme et qui a entraîné la plus grande pandémie du siècle précédent, avec à la fin des années 2000, 36 millions de patients atteints, dont plus de 90% dans les pays développés, 22 millions de décès cumulés. Et dans certains pays, l'incidence, la prévalence atteignait presque le tiers de la population et il y a une chute énorme de l'espérance de vie dans certains pays d'Afrique. Ici, vous avez la plaque de la mortalité par pathologie aux États-Unis. Vous voyez que cette ascension effroyable du sida et qui puis maintenant, depuis quelques années, heureusement, la mortalité par sida a beaucoup régressé, en raison notamment de la trithérapie. En 93, naissance d'une maladie. Alors, c'est le syndrome antivirus pulmonaire à antivirus qui est apparu aux États-Unis. C'est une pneumonie aiguë qui est apparue dans le sud des États-Unis, avec un nouvel antivirus. Ce virus était le réservoir naturel était les rongeurs, et la transmission humaine a été soit directement par le rongeur, le contact des rongeurs, soit par les excréta, ou soit par inhalation d'aérosol avec du matériel infecté. La transmission chez l'homme était accidentelle. Il y a eu quelques cas décrits de transmission interhumaine, et les manifestations cliniques étaient essentiellement de la fièvre et des myalgies sévères. Après, il y avait une évolution rapidement progressive d'insuffisance respiratoire avec des œdèmes lésionnels, pulmonaires lésionnels, et une grande mortalité. De 1993 à 1995, 44 cas mortels d'antivirus pulmonaire ont été décrits aux États-Unis sur des autopsies chez des patients nés d'œdèmes lésionnels, non expliqués. Par la suite, l'antivirus a été décrit en Amérique du Sud, en Argentine, au Chili, en Bolivie, au Brésil. Et en Brésil, de 1993 à 2007, 884 cas ont été décrits avec une mortalité de 39%. Vous voyez ici que la mortalité est aussi très importante. 2003, encore la naissance d'une maladie. Dans un hôtel à Hong Kong, l'hôtel Métropole, à la chambre 911 du 9e étage, habitait le docteur Liu, qui était professeur en médecine à l'université de Canton. Des voisins, en rentrant à 10h du soir, en passant dans le couloir, l'ont entendu tousser. Au matin, il est transporté d'urgence en détresse respiratoire à l'hôpital, où il décède quelques heures plus tard. En mars 2003, la déclaration de plusieurs centaines de cas à l'hôpital français de Hanoï, à Toronto, à Singapour. Alors que les autorités chinoises n'avaient rien dit d'officiel, plusieurs cas étaient décrits depuis des mois sur Internet en Chine. Donc, des rapports survenaient à l'OMS et tous parlaient d'une pathologie respiratoire inconnue qui affectait essentiellement les blouses blanches, avec des symptômes, avec une fièvre élevée, une toux sèche et difficultés respiratoires. Et l'unité de crise a été faite donc à l'OMS en mars 2003, et nous avions appelé à l'époque le syndrome respiratoire aigu sévère, le fameux SARS dont vous vous souvenez tous. Alors à l'OMS, il y a branle-bas de combat, la définition des cas, des recommandations, du contrôle dans les hôpitaux. On ne savait pas au départ la transmission, on pensait qu'elle était aérienne, on ne connaissait pas le germe. Et puis il y a eu des recommandations de ne pas aller dans les villes où c'était infecté puisque les cas se succédaient. Alors le porteur, c'était en fait le raton laveur qui l'a transmis à des animaux semi-sauvages. Et puis, très probablement, c'est un marchand d'animal en Chine qui l'a transmis. Alors, ce qui a fait ce germe qu'on va voir, qui a muté, c'est la promiscuité, c'est le surpeuplement et c'est la cohabitation entre animaux domestiques et animaux sauvages. Quelques mois plus tard, cette maladie avait touché 8422 personnes et il y avait environ 600 décès dans le monde. Et voyez, trois mois après les premiers cas, la répartition du SARS dans le monde. Et bien entendu, comme de coutume, c'est dans le New England Journal of Medicine qui est sorti quelques mois après la première publication sur un nouveau coronavirus qui a donné le SARS. Donc c'est on disait que ça allait du Kleenex à l'intubation. Alors, ça commençait comme un petit rhume et très rapidement, une évolution très rapidement fatale avec une fièvre très élevée, une asthénie myalgique. Donc, c'est un syndrome viral très rapidement évolutif et qui entraînait rapidement la mort. Donc, ça a été la première grande pandémie du XXIe siècle, avec une transmission interhumaine et surtout une atteinte de 30% des patients étaient des blouses blanches. En 2004, la réapparition d'une maladie. Alors, Fauci avait dit que tous les 20 à 40 ans apparaissait une nouvelle épidémie de grippe. Et en fait, le problème se posait pas quand, ne se posait pas si elle allait apparaître, mais quand elle allait apparaître. Et tous les 20 à 30 ans, on se dit qu'il y aura une grosse épidémie de grippe qui va entraîner beaucoup de monde. Voilà. Alors, les leçons de l'histoire, 1918-1920, c'est la grippe espagnole, environ 20 millions de morts. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de, on ne connaissait pas le germe, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de, on ne savait pas le mode de transmission, tout est dans. En 57-58, c'est la grippe asiatique. En 68-69, c'est la grippe de Hong Kong, et qui avait fait 18 000 morts en France et 40 000 aux USA. Et en fait, la grippe survient chaque année, et chaque année, il y a, c'est la grippe habituel, il y a 20 000 décès de par aux États-Unis en rapport avec la grippe. Donc, si on prend un peu, voilà un peu les dernières épidémies de grippe. Et vous avez la toute dernière, c'était en 2009, qui avait fait 18 134 décès. Donc, alors, ce qui se passe, c'est en général, alors la grippe, c'est une pathologie qui atteint et les oiseaux et les hommes, avec un virus qui est différent, mais parfois un même virus. C'est en général le virus A qui peut atteindre et l'homme et les oiseaux. Et c'est une mutation qui peut entraîner la mutation d'un virus aviaire qui peut entraîner la contamination de l'homme. Et tout le problème qui se pose à chaque fois, est-ce qu'il n'y aurait pas une seconde mutation qui permet la transmission d'homme à homme et qui fait que les simples cas sporadiques de grippe aviaire chez l'homme deviennent une épidémie chez l'homme. Donc, vous voyez un peu, donc c'est un myxovirus commun aviaire qui est transmis à l'homme. Et puis, s'il mute, en cas de mutation, eh bien, il va donner une épidémie de grippe. Alors, cette grippe aviaire de 2004, dans le bilan a été fait le 18 janvier 2009. Il y a eu donc encore une grippe aviaire en 2009. Il y a eu en 2000 juste avant. Il y avait 395 humains et qui ont été touchés par le grippe H5N1 avec 250 morts. Et vous avez ici un peu la répartition et de la grippe aviaire et de la population humaine touchée. Et vous voyez que c'est essentiellement la partie asiatique du monde, là où il y a énormément de promiscuité avec les poulets, notamment, qui a eu le plus grand nombre de cas de grippe. 2009, on se souvient tout aussi de cette période de la grippe porcine. Alors, ça a été aussi là très rapide. On se souvient, c'était juste quelques semaines avant l'ATS qu'il y a eu au Mexique ce qu'on appelait au tout départ la grippe mexicaine. Tout de suite après, l'OMS a relevé son taux d'alerte pour aller du niveau 5, tout de suite au niveau 5, donc pandémie. Et puis en juin, c'était le niveau 6 sur une échelle de 7 niveaux. C'était la période où on fabriquait le vaccin de la grippe saisonnière de l'année suivante. Tous les laboratoires pharmaceutiques ont dû refaire des vaccins en incluant le nouveau vaccin de la grippe. Et vous savez, c'est une course contre la montre pendant l'été 2009 pour avoir ce vaccin qui a été commencé à être distribué en octobre 2009. L'épidémie s'est terminée en avril 2010. Là encore, c'est une grippe donc, qui est passée probablement, c'est une grippe aviaire, qui est passée par le porc, il y a eu une mutation, c'est reparti chez l'homme, et puis après, il y a eu cette pandémie qui, au départ, on pensait qu'elle était être terrible. En fin de compte, bon, elle a été une grosse pandémie, mais avec une mortalité beaucoup moins importante qu'on le pensait au départ. Il y a eu 18 138 morts en rapport avec cette pandémie. Je voudrais parler ici juste de la situation en Tunisie, qui s'est passée à l'époque. Donc, on a eu, comme tout le monde, la grosse pandémie, la grosse épidémie. En décembre 2007, en décembre 2009, on avait 1057 cas confirmés en Tunisie. À la fin de l'épidémie, on avait une estimation de 687 000 cas avec 67 décès. Dans le service, nous avions eu à prendre en charge 189 patients pour cette grippe. Alors, essentiellement, on a eu 22 patients ont été hospitalisés à forme grave avec 4 décès. En fait, la mortalité dans les formes graves était de 18% et la mortalité de cette grippe en Tunisie, elle a été de 2,1%. Donc, c'était vraiment pas la catastrophe annoncée au départ. En 2012, naissance d'une maladie. Alors 2012, c'est le MERS. Le MERS qui est apparu en Arabie Saoudite, Middle East Respiratory Syndrome, coronavirus. Alors c'était pas le même coronavirus que la première fois, c'était un nouveau germe qui est apparu en Arabie Saoudite et qui très rapidement a atteint pas mal de personnes. Et vous voyez ici sur ce graphe un peu le nombre de cas déclarés. Alors c'était essentiellement dans cette région-là. Alors il y a ce site qui s'appelle coronamaps.com qui donne instantanément les cas. Alors actuellement, à hier, il y avait 1154 cas infectés avec 431 décès. On peut aussi, en allant sur ce site, cliquer et voir un peu ce qui se passe. Donc, j'ai choisi la Tunisie. La Tunisie, nous a eu 3 cas. C'était un patient, c'était une personne qui était revenue des Émirats Arabes Unis en 2013 et qui a contaminé une personne de sa famille et un travailleur de l'hôpital. En fin de compte, cette personne-là est morte, mais 2 autres sont vivantes. Et puis, depuis, on n'a plus eu aucun cas. Bon, puisqu'on est au Liban, il y a eu un cas qui a récupéré. En France, il y a eu 2 cas, un récupéré et un qui est décédé. Aux Émirats, il y a eu, c'est le deuxième pays après l'Arabie Saoudite, il y a eu environ une 60aine de cas. Mais le plus grand nombre de cas, il y a eu en Arabie Saoudite. Il y a encore. Alors, pour vous dire que c'est pas terminé, que depuis 2 jours, il y a une nouvelle alerte en Corée du Sud. Et si on se réfère à l'OMS, hier, eh ben, ils lançaient une alerte. Alors, en Corée du Sud, il y a eu 15 cas ces derniers jours, avec 3 décès. Et en Corée du Sud, si vous regardez CNN, si vous avez regardé CNN ce matin, ils sont en train de fermer des écoles et de mettre en quarantaine des personnes. Donc, le MERS, c'est pas terminé et le pneumologue est encore en première ligne. Donc, ces 40 dernières années, il y a une apparition de pas mal de pathologies émergentes. Le poumon a été toujours touché, très souvent touché, à part l'Ebola. Toutes les autres grosses épidémies de ces 40 dernières années, on était en première ligne, soit parce que le poumon, il y avait une atteinte pulmonaire, soit parce que la transmission était pulmonaire, soit comme le sida, bon, parce qu'il y avait, bien que ce soit pas une transmission aérienne, dans le sida, il y a eu cette grosse atteinte pulmonaire, puisque par l'immunodépression. Il y aurait des maladies nouvelles, et nous n'en saurons pas plus sur la naissance de ces maladies que sur l'origine première de celles dont nous souffrons aujourd'hui, et dont certaines sont plus vieilles que l'histoire. Charles Nicolle, directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, prix Nobel de médecine 1928. Je vous remercie.